Bonjour. Bon temps de louange encore ce matin. Tellement bien. Ah, être près de Jésus. Hier, on avait notre retraite pastorale. On a fait une fois par année. Habituellement, on faisait en septembre, à août-septembre. Et maintenant, avec la retraite qu'on a pour les coordonnateurs de groupe maison, groupe vie, cette année, on le fait en février. Et c'est toujours très encourageant. On fait une rétrospective. On regarde un peu qu'est-ce qui s'en vient. On essaie de discerner où Dieu veut nous emmener en tant qu'équipe et en tant qu'Église. Et une des choses qu'on a parlé cette année, beaucoup pendant la fin de semaine, ça a été l'Église fille, l'implantation de l'Église fille. Puis samedi, pas hier, mais l'autre samedi de la semaine passée, sur la Rive-Sud, justement, ils avaient eu une rencontre et avec Israël Luc, qui était là, présent. Israël était avec nous aussi hier, pas plus ce matin parce qu'il devait aller à Sherbrooke, mais alors il nous a présenté un peu aussi ce qui avait été présenté sur la Rive-Sud, et vous savez, c'est très, très intéressant de voir ce qui s'en vient, et à la réunion annuelle qui s'en vient le 20 février, à la réunion des membres, alors ça va aussi être présenté à toute l'Assemblée des membres qui vont être présents, donc c'est un rendez-vous à pas manquer. Des belles choses qui s'en viennent. On voit Dieu continuer à agir, à préparer le terrain. Alors, c'est lui maintenant qui doit se manifester. En fait, depuis le début, là, il se manifeste, mais devant ce qui s'en vient, là, c'est lui qui a, disons, le dernier mot. Et on cherche sa face et on veut lui demander qu'il intervienne de façon claire. Et comme ça, on va pouvoir tous se réjouir ensemble aussi, sans équivoque. Oui, il y a des défis qui s'en viennent. Ah, mais c'est quoi? Hein? Avec la grâce de Dieu, avec le Seigneur Jésus, on va se réjouir ensemble de ce qu'il nous donne d'aller de l'avant avec un tel projet qui est spécial dans la vie d'une Église. J'aimerais aussi, avant de commencer ce matin, prier pour notre frère Jacques Julien. Il est mentionné dans les requêtes dans votre bulletin que vous avez reçu, là, les requêtes et remerciements. Alors, notre frère Jacques est mentionné concernant sa santé, et là, il aurait eu des nouvelles comme de quoi que le cancer aurait repris de l'action, et donc, il est secoué quand même à travers tout ça, puis je crois aussi qu'il y a même des maux de dos, entre autres, là, qui semblent surgir présentement. Alors, on peut prier pour ça. Et voyez aussi les autres noms qui sont mentionnés. Prions pendant la semaine, prions dans nos groupes, lorsqu'on se réunit, apportons nos frères et sœurs dans la prière, parce que vous savez, quand on vit des moments difficiles, la prière est vraiment, vraiment un refuge. Et Dieu agit. Même José me partageait un peu avec Christine en haut en ce qui concernait son père, puis comment Dieu est en train de travailler aussi à travers les nouvelles, mais la prière, le fait que plusieurs personnes prient pour lui, c'est un témoignage, c'est vraiment un témoignage. Alors, on va prier ensemble ce matin, et en même temps, on va se remettre nous-mêmes entre les mains du Seigneur. Alors, Seigneur Jésus, oui, c'est toi qui vers qui on veut aller. Tu es vraiment la personne qui a fait toute la différence dans notre vie. C'est toi, Seigneur, qui es notre refuge. Tu es l'ancre de notre âme. Et peu importe les circonstances, Seigneur, toi, tu restes le même. Et nous avons cet accès auprès de toi. Tu sais, Seigneur, que notre âme est parfois secouée, bouleversée, mais en même temps, on veut continuer à placer notre espérance en toi. et que même tu puisses fortifier notre foi et notre âme. Et ce matin, on veut te prier d'une manière particulière pour notre frère Jacques, un des pionniers ici à l'Église, qui a été fidèle à travers toutes ces années, t'a servi avec un cœur et une joie exemplaire, qui a su s'adapter à toutes sortes de nouvelles choses et de circonstances. Et tu vois maintenant, Seigneur, qu'est-ce qui se passe au niveau de ce cancer qui semble reprendre des forces. Seigneur, on veut le placer entre tes mains. On veut qu'il puisse sentir ton soutien dans son cœur. Que toi, Seigneur Jésus, tu sois ce soutien de son cœur. Et que si dans ta grâce, Seigneur, tu veux intervenir une autre fois et faire que ce soit encore mis de côté et lui donner des années pour te servir, bien Seigneur, manifeste-toi, agis selon ta grâce et ta puissance, car toi, rien ne t'est impossible. Mais Seigneur, nous savons aussi que nous sommes tous appelés un jour à être dans ta présence. Et merci pour l'espérance vivante que nous avons. Et quoi qu'il advienne, Seigneur, c'est vers toi que nous voulons nous tourner. Et c'est ta bénédiction que nous demandons ce matin. Nous voulons aussi ouvrir ta parole et laisser cette parole toucher nos cœurs. Que tu puisses, Seigneur, avoir accès à nos cœurs ce matin. Que ton esprit vienne calmer ou taire toute autre voix qui pourrait déranger ce matin notre concentration. Et que ta parole soit vraiment celle qui vienne toucher nos cœurs ce matin, qui vienne d'une manière spéciale et personnelle à chacun de nous, nous rencontrer là où nous sommes, selon notre besoin. Parce que ta parole, elle est vivante, elle est pénétrante. Elle va là même où aucun de nous a accès. Mais toi seul es capable d'aller aussi loin dans notre cœur. Et nous nous plaçons devant toi ce matin. Nous nous attendons à toi, Jésus, encore, que ce soit toi qui sois entendu ce matin. Car nous t'aimons, Seigneur Jésus, et nous voulons t'honorer en ton nom. Amen. Voilà. Si on demandait aux gens autour de nous la plus belle expérience qu'ils ont eue à vivre, qu'est-ce qu'ils répondraient? Est-ce que vous pensez que plusieurs personnes répondraient, « Moi, ma plus belle expérience de vie, c'est le mariage. » Les nouveaux mariés, peut-être? Combien répondraient ça ce matin? Moi, ça a été mon mariage, la plus belle expérience de vie. Ah, c'est pas pire. Des fois, c'est l'homme qui lève la main, la femme ne lève pas la main. OK. Combien de femmes diraient que c'est la plus belle expérience de leur vie? Chérie, lève ta main. Oh! Pourtant, on s'était pratiqué à la maison. Aïe. Combien diraient que la plus belle expérience, et là, c'est sûr, les hommes, vous êtes exclus, quoique, pas nécessairement, mais en tout cas, ça serait d'avoir eu un enfant, ou d'avoir un ou des enfants, mais peu importe. Ah, il y en a des mains. Il y a des mains, il y a plus de mains que le mariage, donc, OK. C'est bon. Et là, ça touche tout le monde, les jeunes, les mariés, les non-mariés, peu importe. Combien diraient que c'est un voyage à l'étranger? Ah, mais pourquoi vous faites des voyages? C'est... OK. Vous savez, il existe des expériences qui marquent pour la vie. et même, je dirais, vous êtes d'accord avec moi, pour l'éternité. Hein? Et le texte d'aujourd'hui mentionne une expérience assez marquante que trois disciples ont eu le privilège de vivre. Les trois disciples sont Pierre, Jacques et Jean. Et cette expérience, c'est la transfiguration de Jésus. Voici ce que Pierre même dit dans sa deuxième épître au chapitre 1 et le verset 16 à 21. De ce qui s'est passé pour lui lors de cette fameuse expérience qu'il a vécue avec les deux autres. Il dit ceci, « En effet, nous ne nous sommes pas appuyés sur des histoires habilement inventées lorsque nous vous avons fait connaître la venue de notre Seigneur Jésus-Christ dans toute sa puissance, mais nous avons vu sa grandeur de nos propres yeux. » Car Dieu le Père lui a donné honneur et gloire lorsque, dans sa gloire immense, il lui a fait entendre sa voix qui disait, « Voici mon Fils bien-aimé qui fait toute ma joie. » Or, cette voix qui était venue du ciel, nous l'avons entendue nous-mêmes, puisque nous étions avec lui sur la sainte montagne. L'expérience en question. De plus, nous avons la parole des prophètes sur laquelle nous pouvons nous appuyer fermement, et vous faites bien de lui accorder votre attention, car elle est comme une lampe qui brille dans un lieu obscur jusqu'à ce que le jour paraisse et que l'étoile du matin se lève pour illuminer vos cœurs. Sachez avant tout qu'aucune prophétie de l'Écriture n'est le fruit d'une initiative humaine. En effet, ce n'est pas par une volonté humaine qu'une prophétie n'a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Alors, c'est évident que Pierre a été marqué par cette expérience sur la Sainte Montagne. Maintenant, je vous dirais ceci. Le récit qu'on va regarder ce matin dans l'Évangile de Marc au chapitre 9, nous invite chacun de nous à vivre une telle expérience de vie avec Jésus. Aimeriez-vous voir sa grandeur de vos propres yeux et entendre cette voix qui vient du ciel? Aimeriez-vous rencontrer le vrai visage de Jésus? Celui que les évangiles nous révèlent. Aimeriez-vous? C'est l'invitation que le texte va nous faire ce matin. Le récit biblique, Marc 9, 1 à 32. Alors, il est divisé en quatre sous-thèmes. Et ce matin, j'aimerais me concentrer sur une portion du texte, et j'ai réservé une autre portion, parce que c'est quand même un texte assez consistant, et je vais revenir en mars, on a des baptêmes en mars, et il y a une partie de ce texte que je vais, regarder d'une façon un peu plus particulière lors de ce baptême en mars. Okay? Mais ce que j'aimerais me concentrer ce matin, c'est sur cette expérience que ces trois disciples ont vécu avec Jésus. Alors, les versets 1 à 10 nous montrent justement la révélation de la gloire de Christ. Verset 1. Il leur dit encore, « En vérité, je vous le dis, quelques-uns de ceux qui se tiennent ici ne goûteront point la mort avant d'avoir vu le royaume de Dieu venir avec puissance. » 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il les conduisit seuls à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Ses vêtements devinrent resplendissants et d'une telle blancheur qu'il n'est pas de blanchisseur sur terre qui puisse blanchir ainsi. Alors, du blancheur, c'est du... l'eau de Javel? OK. sais pas c'est quelle marque que ça pouvait être, mais en tout cas. Et là, ça nous dit aussi, au verset 4, « Élie et Moïse leur apparurent, et ils s'entretenaient avec Jésus. » De quoi pouvaient bien-ils parler ensemble, hein? Les femmes, vous êtes curieuses, là, hein? Vous aimeriez ça savoir. Pourquoi vous riez? Non? C'est correct. Aimeriez-vous ça savoir de quoi qu'ils parlaient, hein? Ce serait le fun. Moi, en tout cas, je suis curieux. J'aurais aimé ça savoir. Qu'est-ce qu'ils pouvaient bien jaser ensemble? Jésus, Moïse et Élie. Ça vous intrigue pas, vous autres? OK. Verset 5, Pierre prit la parole et dit à Jésus, « Rabbi, il est bon que nous soyons ici. Dressons trois tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Et là, ça dit au verset 6, « Il savait que dire, car l'effroi les avait saisis. » Donc, encore là, Pierre dit ce qu'il pense, mais ce qu'il pense, pas nécessairement ce que Dieu pense. Encore une fois ici, c'est le cas. Verset 7, une nuée vint les envelopper, et de la nuée sortit une voix, « Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. » Aussitôt les disciples regardèrent alentour, mais ils ne virent plus personne que Jésus seul avec eux. Comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur recommanda de ne raconter à personne ce qu'ils avaient vu, jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. Ils retinrent cette parole, tout en discutant entre eux, « Qu'est-ce que ressusciter d'entre les morts. » Qu'est-ce qu'il veut dire? Est-ce qu'ils ont compris? Maintenant, le rôle d'Élie. On voit que les disciples, ça continue à travailler dans leur tête. Ils essaient de faire du sens avec ce qui vient de se passer. Et là, c'est dit au verset 11, les disciples lui posèrent cette question. Pourquoi les scribes disent-ils, il faut qu'Élie vienne d'abord? Et là, Jésus leur répondit, « Élie vient d'abord et rétablit toute chose. » Oui, c'est vrai. Mais comment est-il écrit du Fils de l'homme qui doit souffrir beaucoup et être méprisé? Alors là, Jésus injecte quelque chose de nouveau. Verset 13, « Mais je vous dis qu'Élie est venu et qu'ils l'ont traité comme ils l'ont voulu selon ce qui est écrit de lui. » Et là, la section qui suit, les versets 14 à 29, qui est la guérison d'un démoniaque, je vais la sauter et on va aller au verset 30 et finir avec les versets 31 et 32. Ça dit, ils partirent de là et traversèrent la Galilée. Jésus ne voulait pas qu'on le sache. Et voici, au verset 30-31, Jésus annonce à nouveau à ses disciples ce qui s'en vient en ce qui le concerne, c'est-à-dire sa passion, sa mort et sa résurrection. Verset 31, « Car il enseignait ses disciples et leur disait, « Le Fils de l'homme sera livré entre les mains des hommes. Ils le feront mourir, et trois jours après sa mort, il ressuscitera. » Est-ce que les disciples ont compris? Verset 32, « Mais les disciples ne comprenaient pas cette parole, et ils craignaient de le questionner. » Là, ils sont un petit peu plus prudents. Ils ont peut-être peur de ses réponses ou d'être pris. Maintenant, la gloire du Messie, les versets 1 à 10. Qu'est-ce que Jésus voulait dire par les paroles du verset 1? « Quelques-uns de ceux qui se tiennent ici ne goûteront point la mort avant d'avoir vu le royaume de Dieu venir avec puissance. » Alors là, il y a tout un débat sur le sens exact de ce que Jésus voulait dire ici. Donc, il y a 5 possibilités. Sont comme, dépendamment de qui on lit et qui on regarde, il y a 5 possibilités. La première, certains pensent qu'il s'agit ici de sa résurrection et de son ascension. Alors, Jésus serait en train de parler de ça. D'autres pensent que ça serait plutôt la venue de l'Esprit à la Pentecôte. C'est là qu'ils ont vu le royaume de Dieu se manifester avec puissance. D'autres encore pensent que c'est l'extension du christianisme à travers le monde romain. C'est là que, le royaume de Dieu s'est manifesté avec puissance. Et donc, ceux qui étaient parmi les disciples, qui étaient présents au moment que Jésus a parlé, donc étaient encore vivants. D'autres encore pensent que c'est la destruction de Jérusalem en l'an 70 de notre ère. Alors, toutes ces possibilités sont possibles. C'est pour ça que c'est des possibilités. Elles sont plausibles, dans le sens qu'elles sont arrivées. Maintenant, selon le contexte, qu'est-ce qui serait encore plus plausible? La transfiguration. Tout simplement, 6 jours après. Comprenez? Jésus dit une parole, 6 jours après, il se passe ce qui se passe sur la montagne où tout à coup, sa gloire a été manifestée. Une partie de sa gloire, on pourrait dire, a été manifestée. Donc, la plus probable serait celle-là, c'est-à-dire sa transfiguration. C'est aussi celle qui offre le meilleur avant-goût de son retour en gloire. Parce que là, Jésus a été transformé devant même ses disciples. Et les 3 évangiles qu'on appelle synoptiques, c'est-à-dire qui sont semblables dans leur contenu, Matthieu, Marc et Luc, inscrivent cette promesse juste avant cet événement-là, qui est la transfiguration. Donc, ce qui vient donner encore plus de poids à cette 5e possibilité, qui est la transfiguration. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé au moment de la transfiguration? Le mot qui est là, c'est le mot qu'on peut utiliser pour métamorphose. Alors, l'idée ici qui s'est passée, c'est que Jésus a été métamorphosé. Comme dans Romains 12, quand il parle du renouvellement de l'intelligence en vue d'être transformé, en vue d'être métamorphosé. Ici, Jésus a été métamorphosé devant les yeux des 3 disciples qui étaient présents. Marc souligne un seul aspect de la métamorphose. Ses vêtements devinrent resplendissants et d'une telle blancheur qu'aucun foulon de la terre ne puisse autant blanchir. Tandis que Matthieu et Luc soulignent un deuxième aspect de cette métamorphose, ça dit aussi que son visage resplendit comme le soleil. Donc, non seulement les vêtements de Jésus sont devenus d'une telle blancheur que... Il n'y a pas d'autre moyen de le décrire que de dire qu'il n'y en a pas assez d'autres Javel qui existent pour dire que ça va être plus blanc. Ça, c'était rayonnant, là. C'était comme le soleil. Et son visage a aussi resplendi comme le soleil. Ça, c'est dans Matthieu 17, 2. Et Luc 9, 29, lui, dit que l'aspect de son visage a changé. Alors, on sait qu'est-ce qui s'est passé. Ça a été cette transformation radicale de l'apparence de Jésus qui, elle, vient justement symboliser ce qui va se passer lors de son retour, la gloire de son royaume qui va être manifestée. La gloire divine qui émanait de Jésus faisait que son visage et même ses vêtements irradiaient une lumière d'une blancheur éblouissante. Et on voit aussi dans la parole de Dieu que la lumière symbolise souvent aussi la présence de Dieu, comme dans Apocalypse 21-23, où ça dit qu'il n'y aura même plus besoin de lumière parce que la présence de Dieu va être la lumière qu'on va avoir besoin. Donc, la lumière reflète justement cette présence glorieuse de Dieu. Mais ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que Luc 9-29 rajoute un détail pour moi, est très pertinent, très important même. Ça dit ceci, c'est pendant que Jésus priait sur la montagne qu'il a été transfiguré. Et ici, cette montagne est probablement le mont Hermon, étant donné que c'est le mont qui est le plus près de la région où ils étaient, en Césarée. C'est Luc aussi qui souligne que la prière a joué le même rôle clé lors du baptême de Jésus où le Saint-Esprit est descendu sur Jésus sous la forme d'une colombe et que la même voix du Père s'est fait entendre en ce qui concerne Jésus qui disait « Voici mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. » Ça s'est passé à son baptême et c'était pendant que Jésus était en train de prier. Ici, il va sur la montagne avec ses disciples et pendant qu'il est en train de prier, la métamorphose se produit. Est-ce que la prière a un rôle prédominant pour nous révéler Jésus, pour nous révéler son identité et pour nous révéler sa mission, pour nous révéler sa gloire. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je pense que c'est très clair. Et c'est peut-être ce que Jésus voulait aussi que ses disciples comprennent. Que si vous voulez que quelque chose arrive, que vous compreniez quelque chose en ce qui me concerne, vous ne pouvez pas y arriver par vos propres efforts. Vous ne pouvez même pas y arriver par vos réflexions, vos questionnements. Je dirais même, vous ne pouvez même pas y arriver par vos études, vos lectures. Parce que c'est même écrit par Paul que lorsqu'ils font la lecture, un voile est sur leurs yeux, mais le voile est ôté quand on vient à Christ. La prière nous introduit dans la présence de Dieu. Pour moi maintenant, ça c'est tellement clair. C'est tellement vrai. Parce que c'est là que tout à coup Jésus se manifeste à nos cœurs. La prière est ce qui invite Jésus à interagir avec nous. Et dans la prière, Jésus peut se révéler à nous. Lorsque quelqu'un vient à Jésus pour être sauvé, ça se passe quand? On lui a expliqué l'Évangile et tout ça. On a partagé l'Évangile. Je ne sais pas si vous vous souvenez de votre propre expérience, pour ceux qui ont fait cette expérience de la nouvelle naissance. Mais moi, je me rappelle comme si c'était hier. Je me souviens de où j'étais. Je me souviens de l'endroit où j'étais. Et je me souviens de ce que, pas de la prière exacte que j'ai faite, mais de ce qui s'est passé dans mon cœur au moment où j'ai fait la prière. Et là, j'ai rencontré Jésus. Je l'ai rencontré comme mon sauveur. Et j'avais la certitude que mes péchés étaient pardonnés. Et j'avais la certitude que Jésus était réel, là, aussi réel que la personne qui était devant moi. Et là, quand j'ouvrais la Bible et que je lisais, j'avais lu beaucoup à ce moment-là, mais là, je lisais, j'ai dit, « Hein, ça me parle à moi! » Et là, mon cœur était tout ouvert. Et là, Jésus interagissait avec moi. Et là, j'avais le sens de sa présence, j'avais la réalité de mon cœur et de cette communion que j'avais avec lui, qui m'aimait, que là, il m'avait pardonné, il m'avait accepté dans sa présence. Et à chaque fois qu'on a goûté à la présence de Dieu, pensez-y là, n'était-ce pas dans un temps de prière? Peut-être on vivait des circonstances difficiles, on était bousculé, on était confronté à des réalités justement qui nous dépassent, et là on est au bout du rouleau, on a fait tout ce qu'on avait à faire pour nous débrouiller, puis finalement on arrive à un point où on dit, Seigneur, est-ce que tu peux prendre la relève? Est-ce que tu peux faire quelque chose? Et c'est souvent là que notre cœur a goûté à la réponse de Jésus et qu'on a grandi dans notre relation avec Dieu. La prière est un élément clé. Une autre chose qu'on voit qui s'est passée lors de la transfiguration, c'est qu'il y a eu l'apparition de deux personnages de l'Ancien Testament, Élie et Moïse. Et ces deux personnages, en fait, symbolise les deux grandes parties de l'Ancien Testament, qui est la loi et les prophètes. Moïse étant celui qui symbolise la loi, naturellement, et Élie, celui qui symbolise les prophètes. Maintenant, qu'est-ce que Jésus a parlé avec Moïse et Élie? Aimeriez-vous ça le savoir? Je demande au Seigneur de me le dire. Dans la prière, puis j'ai vu Luc 9, 31. Ce qui est merveilleux, c'est qu'on a quatre évangiles. Trois sont semblables, et Jean est dans une classe à part, parce que lui, il relate complètement les choses différemment, il parle de sujets que les autres ne parlent pas, et ainsi de suite. Mais dans Luc, parlant ici du même événement, ça dit ceci, « Ils » au pluriel, parlant de Jésus, Moïse et Élie, parlait de son départ qu'il, au singulier, en parlant de Jésus, allait accomplir à Jérusalem. De quoi est-ce qu'ils parlaient ensemble? Ils parlaient de la passion du Christ. Qu'est-ce qui s'en venait? C'est pour ça qu'à partir du chapitre 8, et plus on s'en vient maintenant, là on s'approche de Jérusalem. Et on s'approche de cette réalité. Et là, Jésus veut prendre du temps avec ses disciples pour les préparer. Parce qu'il sait très bien comment c'est important que les disciples soient préparés à ce qui s'en vient. Une chose, c'est qu'ils comprennent à rien. Ils ont bien de la misère à comprendre. Ils sont bien excités de voir Jésus enseigner. Ils sont bien excités de voir Jésus faire des miracles, puis pas à peu près, mais et qui ont de la misère à comprendre. Ils sont très lents à comprendre. Même Jésus dit, ils ont une dureté de cœur qui impressionne, ou en tout cas qui étonne Jésus, de voir qu'ils ont de la misère comme ça à saisir ce qu'il est en train de leur enseigner. Une autre chose qui s'est passée ici, c'est qu'il y a eu une nuée. Et Matthieu rajoute une nuée qui était lumineuse au chapitre 17, verset 5. Alors, elle vint couvrir Jésus et Moïse et Élie. Et ici, c'est la même nuée glorieuse qui, justement, tout au long de l'Ancien Testament, a signalé la présence de Dieu. Et on lit, par exemple, dans Exode 13, versets 21 et 22, le texte suivant. L'Éternel allait devant eux, en parlant des Juifs, dans le désert, le jour dans une colonne de nuée pour les guider sur le chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils marchent jour et nuit. Alors la nuée, ils connaissent ça très bien, cette histoire-là, et ils savent que c'est symbole de la présence de Dieu. Exode 33, 7 à 23 parle aussi de la nuée qui descendait et qui s'arrêtait à l'entrée de la tente d'assignation où se trouvait Moïse. Et ça dit ceci, « Et l'Éternel parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle avec son ami. » Au verset 11 du chapitre 33 d'Exode. C'est aussi là où Moïse demanda à Dieu de lui révéler sa gloire. Au verset 18, « Et Dieu répondit, ceci dans les versets 19 à 23, « Je ferai passer devant ta face toute ma bonté, et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce, et j'ai compassion de qui j'ai compassion. » Il ajouta, « Tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. » Mais l'Éternel dit, « Voici un endroit près de toi, tu te tiendras sur le rocher. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher, et je couvrirai ma main jusqu'à ce que j'ai passé. Puis je retirerai ma main, et tu me verras par derrière, mais ma face ne pourra pas être vue. » Ici, les disciples ont vu la face de Jésus être transformée. Elle a changé. Là, il y avait la gloire de Dieu qui était en train d'être reflétée sur lui. Et ça dit qu'ils ont eu peur. Ils ont eu très peur à ce moment-là. Apocalypse 1:7 mentionne que lors du retour de Jésus, il va revenir sur des nuées de gloire. Et là, ça dit, tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, en parlant de la nation d'Israël. Et toutes les tribus de la terre aussi le verront et se lamenteront parce qu'ils ne se sont pas repentis et que là, ils attendent le jugement. Et là, ils vont en prendre conscience. Une autre chose qui s'est passée lors de cette transfiguration, c'est une voix qui s'est faite entendre à travers la nuée en disant, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé. » Luc 9, 35, lui aussi, ajoute le mot, « Ceci est mon Fils élu. » Puis Matthieu 17, 5 dit, « En qui j'ai mis toute mon affection. » Mais une chose qui est commune aux trois évangiles, c'est « Écoutez-le. » À son baptême, ça n'avait pas été mentionné, ça. « Écoutez-le », en parlant du Père, qu'est-ce qu'il est en train de dire de son Fils. Et ici, c'est comme si, justement, le Père dit, ce qui s'en vient, écoutez mon Fils, écoutez-le. C'est en lui que j'ai placé toute mon affection. C'est lui que j'ai choisi. Et vous devez l'écouter. Vous devez lui faire confiance. Matthieu et Luc mentionnent un détail important. C'est que la voix se fit entendre au moment où Pierre parlait encore, puis il disait, ah, on devrait faire trois tentes, une pour toi, une pour moi, puis là, la voix s'est fait entendre. Pierre n'avait même pas fini de parler en disant, Pierre, tais-toi. Tu dis des conneries. Et une des choses qui est possible ici, c'est que Pierre, dans sa tête, faisait une erreur fondamentale. C'est qu'il plaçait Moïse et Élie sur le même pied que Jésus. Et là, la voix de Dieu s'est fait entendre en disant, premièrement, Pierre, tais-toi. Il n'est pas question de faire trois tentes ici. Parce que là, c'est mon Fils qui est l'élu. C'est lui le Messie. Et écoutez-le. Écoutez-le. De plus, c'est de Jésus que la loi et les prophètes parlaient. On le voit dans Deutéronome 18:15. Donc, Moïse et Élie n'étaient pas de la même trempe que Jésus. Ici, il semble qu'il y a un G3 des apôtres. Hein? Pierre, Jacques et Jean. Ils semblent former un groupe particulier parmi les 12 qui est plus intime avec Jésus. Marc 5:37 leur reconnaît un statut spécial pour la première fois. Lorsqu'on lit, « Et il ne permit, en parlant de Jésus, et il ne permit à personne de l'accompagner, ici c'est à la maison du chef de la synagogue, si ce n'est à Pierre, à Jacques et à Jean, qui était le frère de Jacques. » Ensuite, en Marc 14:33, on les voit de nouveau seuls ici avec Jésus, mais à quel endroit? Dans le jardin de Gethsémané, là où justement Jésus est en train lorsqu'il parlait de cet événement qui s'en venait. Et là, Jésus est ici, dans la prière encore une fois. Mais il l'a emmené avec lui, à l'écart, Pierre, Jacques et Jean, pour qu'ils puissent prier avec lui. On sait qu'est-ce qui s'est passé. Malheureusement, les trois se sont assoupis et Jésus a agonisé seul dans la prière, dans ses derniers moments, avant d'être livré. On sait aussi que Pierre et Jean ont été des leaders clés dans l'Église primitive. L'Église primitive, c'est l'Église de Jérusalem, la première Église, dans le fond, qui a été établie tout de suite après la Pentecôte. On voit dans Actes 3:1, Actes 4:13, 8:14 et aussi Galates 2:9 qui sont reconnus comme étant les colonnes par l'apôtre Paul. Ils étaient les colonnes de l'Église à ce moment-là. Et Jacques, lui, ce qui lui est arrivé, c'est que il y a eu une promotion. Qu'est-ce qui est arrivé à Jacques? Pourquoi il n'était pas une colonne de l'Église, lui-ci, comme les deux autres? Il est devenu, parmi les apôtres, le premier martyr, où il y a eu à passer par l'épée. Alors, on voit ça dans Actes 12:2. C'est pour ça qu'on voit, on le voit pas mentionné ailleurs par la suite, parce que, naturellement, il n'était pas là. Même on sait que parmi le G3, il y avait un G1. Alors non seulement Jésus était plus intime avec les trois, Pierre, Jacques et Jean, mais il y en avait un qui était encore plus intime. C'était Jean. Et il s'est nommé comme étant le disciple que Jésus aimait. On sait que c'est lui qui s'est penché sur la poitrine de Jésus au souper pascal et a posé la question que tous voulaient poser, que même Pierre a dit à Jean, posez la question, qui va être celui qui va te livrer. On sait aussi que c'est lui à qui Jésus a confié sa mère, Jean chapitre 19, verset 26. Alors, il était au pied de la croix au moment où Jésus était crucifié avec la mère de Jésus. C'est aussi lui qui a couru le plus vite jusqu'au tombeau vide. Il a fait une course avec Pierre, il est arrivé avant lui. Pierre était plus rapide pour parler, mais Jean était plus rapide pour courir. Alors, Jean, chapitre 20, verset 2. Et c'est aussi celui qui, parmi les douze, a reconnu le premier, Jésus, lorsqu'il lui est apparu sur les bords de la mer Tibériade. Jean, chapitre 21, verset 7. À lui seul, l'apôtre Jean a rédigé un évangile, celui qu'on appelle de l'amour, qui est très différent des trois autres évangiles. Il a rédigé aussi trois lettres, 1, 2 et 3, Jean. Et il a rédigé le livre de l'Apocalypse, qui est la révélation de Jésus-Christ dans sa gloire. Et là, il y a tout un langage assez particulier pour essayer de décrire ce qui s'en vient et la gloire de Jésus qui va être manifestée à travers ça. Maintenant, on sait qu'ils n'ont pas compris la signification des choses qu'ils venaient de vivre. Malgré le privilège que Jésus leur fait à Pierre, Jacques et Jean, ils ne comprennent pas. En fait, ils ont compris assez pour que Jésus leur dise « Ce que vous venez de vivre, dites-le pas à personne. » Jusqu'à ce que le temps soit venu. Alors là, il y a comme... Ça va venir le temps, à un moment donné, de le dire, mais pour l'instant, vous ne le dites pas. Parce que c'est trop tôt, autrement dit, puis c'est pas le temps d'en parler. Gardez ça pour vous autres. Alors, ils l'ont compris assez pour ça. Mais, si on prend en considération leur questionnement par rapport à la résurrection des morts, au verset 10, à la venue d'Élie, au verset 11 à 13, c'est évident qu'il y a des choses qu'ils n'avaient pas compris. Vous savez, la plupart des Juifs croyaient à la résurrection, sauf les Sadducéens. Ce qui troublait le G3, c'est le fait que Jésus évoquait l'imminence de sa propre résurrection. Il croyait à la résurrection des morts. Mais là, Jésus parlait de sa résurrection à lui. Et là, c'est comme, non, on comprend qu'il va y avoir un jour la résurrection, on comprend ça, là. Nous, on y croit, là, qu'un jour, il va y avoir la résurrection des morts. Ta résurrection, c'est quoi ça? Là, comprenez? Non, là, ça passe pas. Et donc, sa mort aussi qui est impliquée à travers ça. Alors, cette confusion prouve qu'il ne comprenait toujours pas la vraie nature de la mission messianique de Jésus. Autrement dit, ils avaient tellement une idée préconçue sur Jésus qu'ils n'arrivaient pas à entrer dans leur mémoire que Jésus pouvait être autrement que comment ils l'avaient imaginé, c'est-à-dire le Messie conquérant. Nous autres, on veut un Messie conquérant. Tu comprends? Parle-nous pas de la mort. Parle-nous pas d'une résurrection. C'est quoi cette affaire-là? Ça rentre pas dans notre conception. Et ne serait-ce pas justement une explication pourquoi, des fois, on a de la misère à saisir qui est Jésus? Parce que notre conception de lui, on l'impose. Notre concept de Dieu est souvent lié sur du mensonge au lieu d'être tout simplement avec un cœur ouvert et dire « Seigneur, qu'est-ce que tu veux me montrer? Montre-moi-le. Moi, je suis enseignable. » Puis là, Dieu, tout à coup, peut interagir avec nous puis nous montrer ce qu'il veut nous montrer parce que notre cœur est enseignable. Moi, je pense qu'il y a un lien ici qu'on doit prendre en considération. Ensuite, le rôle d'Élie, les versets 11 à 13. L'enseignement des scribes, basé sur les prophéties de l'Ancien Testament, évoquait la venue d'Élie en corrélation avec la venue du Messie. Et il semble ici que Jésus dit « Ils ont raison. » Pour une fois, il donne raison aux scribes en disant « Ouais, ça c'est correct. » Effectivement, Élie puis le Messie, ça fonctionne ensemble. Jésus ne donne pas de contre-enseignement par rapport à ça. Et en passant, par rapport à Élie, sa venue, c'est Malachie 3:1 et 4:5 qui justement parlent de cela, qu'Élie va venir préparer la voie du Seigneur. Mais ce que Jésus montre aussi, c'est que ces prophéties ont été accomplies à travers Jean-Baptiste. Toutefois, Jean-Baptiste n'est pas lui-même Élie. Et ça, on le voit dans Jean, chapitre 1, verset 21. Parce que Jean-Baptiste lui-même le dit, « Je suis pas Élie, moi. » Alors, donc, on sait qu'il n'est pas Élie. Mais il est venu, et ça, c'est Matthieu 11, 14 et Luc 1, 17, qui nous montre qu'il est venu avec l'esprit et la puissance d'Élie. Ça, c'est Jésus qui précise cette vérité-là. Donc, oui, il est Élie, mais pas le Élie qui a vécu ou même qui est apparu sur la montagne à Jésus. Puisque les Juifs avaient déjà rejeté Jean-Baptiste à ce moment-là, et un peu plus tard, Jésus lui-même va être rejeté. Donc, un autre Élie va venir avant la seconde venue de Christ. Et ça, on voit ça dans Apocalypse 11, 3, où il parle des deux témoins. Et beaucoup croient que, justement, l'un de ces deux témoins sera Élie, qui va venir aussi. Mais cette fois-ci, il va venir lui-même avant la venue du Messie, mais cette fois-ci, le Messie glorieux, celui que les apôtres pensaient que là, ils avaient devant lui, là. Vous comprenez? Jésus va revenir une deuxième fois. Peut-être vous apprenez ça ce matin pour la première fois. Mais cette fois-ci, lorsqu'il va revenir, il va revenir en gloire. Vous comprenez? Et là, c'est là où les choses sont différentes. Et c'est pour ça que c'est important d'être prêt, soit d'aller dans sa présence ou encore lors de son retour. Maintenant, ce que Jésus révèle, c'est que les scribes avaient manqué une grande vérité concernant Élie et la venue du Messie. Et cette grande vérité, c'est laquelle? C'est que le Fils de l'homme allait souffrir beaucoup et être rejeté. Ils n'avaient pas compris ça. Personne n'avait compris ça. Vous comprenez? Et là, Jésus ici essaie de l'expliquer à ses disciples, puis ils ont de la misère à l'accepter. Ça ne rentre tout simplement pas. Mais c'est la vérité. C'est la vérité qui s'en vient. D'ailleurs, les prophéties concernant Élie n'excluaient aucunement les souffrances et la mort du Messie. Parce que ces deux choses sont prédites dans l'Ancien Testament, comme dans Ésaïe 53. Pour eux, les Juifs, ils regardent Ésaïe 53 puis ils l'appliquent à la nation d'Israël. Et ça, c'est l'erreur qu'ils ont faite. Le serviteur souffrant, c'est pas la nation d'Israël, c'était le Messie lors de sa première venue. Et c'est pour ça que Jésus termine avec les versets 30 et 32. Ça dit, il enseignait ses disciples et leur disait, le Fils de l'homme sera livré entre les mains des hommes, ils le feront mourir, et trois jours après sa mort, il ressuscitera. Mais malheureusement, ils n'ont pas compris cette parole. Vous savez, il y a un dicton qui dit, quand on se regarde, on se désole, et quand on se compare, on se console. Est-ce que ça vous console de savoir que les disciples ont eu tant de misère? Ils étaient là avec eux autres, là. Ici, là, on parle de plus de 2 ans en train de suivre Jésus quotidiennement, de l'entendre enseigner, de le voir faire des miracles, puis ça passe toujours pas. Moi, je sais que j'aurais compris. Hein? Ouais. Vous savez, une chose est sûre, c'est que Jésus est patient. Il est tout aussi patient envers nous qu'il l'a été envers ses disciples. C'est sûr qu'il est triste quand on ne comprend pas son amour qu'il y a pour nous. Il ne se réjouit pas de ça. Il est triste quand il voit qu'on lutte seul dans une épreuve. il est triste lorsqu'il sait que notre cœur a de la misère parce qu'il est attaché à un mensonge. Comme, il n'y a pas de temps pour toi. Tu n'es pas assez bon pour lui. Si tu penses que, après tout ce que tu as fait, il va répondre à tes prières. Il est triste. Parce que ce qu'il veut, c'est nous inviter sur la montagne. Il y a peut-être même d'entre vous ce matin qui pensez, oh, moi, j'aurais même pas été invité. Moi, j'aurais pas fait partie du G3. Encore moins du G1. Ça me chicote, ça, moi. Pourquoi qu'il y avait un G3 et un G1? Mais alors, Jésus, il aime tout le monde. Peut-être pour ça qu'on l'appelle l'apôtre de l'amour. Il avait compris. Peut-être qu'il avait une relation cœur à cœur avec Jésus. Hein? Moi, j'aurais-tu aimé ça? Me pencher sur sa poitrine à Jésus. Prendrais-tu dans tes bras, Jésus? Aurais-tu le courage de faire ça? Je me serais-tu senti trop indigne ou je sais pas. Mais je sais que Jésus a dit, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Et je sais que le désir de Jésus, c'est de nous emmener sur la montagne pour nous révéler sa gloire. Parce qu'il sait que notre cœur a besoin d'entendre la voix du Père. Besoin de voir, de goûter avec notre cœur qui est vivant et que c'est lui qui peut faire la différence dans nos vies. Si ça vous intéresse, j'aimerais vous inviter. On va prier ensemble. Seigneur Jésus, merci encore de ce texte qui nous parle de toi. Seigneur, est-ce que tu es en train d'interagir avec nous ce matin? Est-ce que tu es en train de vouloir avoir accès à nos cœurs? Si j'avais été là, Seigneur, cette journée où tu es allé sur la montagne, est-ce que tu m'aurais invité à venir avec toi? Seigneur, est-ce que tu peux révéler à mon cœur qui tu es vraiment? Peux-tu te faire connaître à moi d'une manière que mon cœur va goûter et saisir comment tu es vivant, vrai? Comment que tu es un Dieu d'amour? Est-ce que je peux goûter à ton amour, Seigneur? Tu vois, Seigneur, mes luttes, tu vois peut-être les épreuves dans lesquelles je suis, les choses qui me dépassent, les choses que je ne comprends pas. Est-ce que tu es fâché après moi, Seigneur? Est-ce que c'est vrai que tu es patient, que tu m'attends? Est-ce que tu m'invites ce matin à venir vers toi? Est-ce que je pourrais y aller, moi, vers toi? Que tu me prendrais dans tes bras, Jésus, ce matin, si j'allais vers toi? Est-ce que tu m'accueillerais? M'aimes-tu à cause de ce que je suis capable de faire? Ou est-ce que c'est ça ta nature? Est-ce que toi, tu m'aimes? Parce que tu sais que j'ai besoin de ton amour. Je ne peux pas rien faire pour mériter ton amour, Seigneur. Mais tu m'aimes. Parce que tu es un Dieu de grâce. Oh Seigneur, j'aimerais avoir cette relation que Jean avait avec toi ou que ses disciples avaient avec toi, Seigneur, cette relation qui s'est manifestée même après ta résurrection, justement, où tout à coup leurs yeux se sont ouverts, puis là c'était toute une autre histoire, Seigneur. Aujourd'hui, on est là, est-ce que, Seigneur, tu peux parler à mon cœur ce matin? Je t'invite, Seigneur Jésus. Montre-moi s'il y a quelque chose qui m'empêcherait de laisser ton esprit toucher mon cœur, que je puisse te l'apporter, te le donner, te le céder. Mais Seigneur, sans toi, j'y arriverai pas. C'est impossible. C'est impossible. Je fais appel à toi, Seigneur. Viens à mon secours. Merci, Jésus, de m'aimer, d'avoir donné ta vie sur la croix, de m'offrir le pardon, de m'offrir la vie éternelle et de m'offrir une relation d'amour intime, quotidienne, peu importe les circonstances. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi pour ce que tu as fait. Que mon cœur puisse te célébrer parce que tu en es digne. Je t'aime. Amen.